Money Time, votre émission sportive tous les lundis de 19h à 20h sur Prune 92 FM et sur prune.net.
Money Time.
Bonsoir et bienvenue sur Money Time, l'émission sportive de Prune sur le 92 FM et sur www.prune.net partout sur la planète. Alors aujourd'hui, on est quatre autour de la table pour faire le bilan de la saison cycliste 2020 avec autour de la table. Pour en parler, eh ben, y a Jean-Marc. Salut mon pote.
Salut à tous. Content d'être là.
Ouais, et tu n'es pas seul puisqu'on retrouve Charles.
Eh oui, bonjour à tous et à tous, je suis enfin de retour.
Ça y est,
ça fait très plaisir.
Back. On n'oublie pas à la régie le Real Antoine. Alors,
salut.
Le sommaire, eh ben, on va reprendre chronologiquement tout ce qui s'est passé l'année dernière hein, pour cette saison cycliste. Donc, bien sûr, les classiques et les grands. Pour terminer, on avait le droit au championnat du monde. Eh ben, on va commencer. Et pour commencer, j'ai envie qu'on parle de celui qui aura été quand même absent toute la saison. Hein, c'est Remco Evenepoel. Charles, hein, celui qu'on annonce hein, comme le nouveau cannibale.
Le nouveau Eddy Merckx.
Le nouveau Eddy Merckx, c'est ça, lui qui avait claqué déjà en début de saison.
Hein, ah, il claque quatre
victoires sur ses quatre participations à quatre tours.
C'est ça, il a enchaîné le tour de San Juan, le tour de Burgos, le tour de l'Algarve et le tour de Plogne. Il a gagné les quatre classements généraux. Enfin, c'est un monstre. Hein. À son âge, hein, il a que 20 ans. Il a 21 en début d'année, je crois bien. C'est impressionnant à son âge d'être aussi. Certainement qu'il a commencé le vélo assez tard, finalement, sur le tard, hein, lui qui avait commencé par le foot. Mais il devient probablement un grand nom du cyclisme, même déjà. Hein.
Ouais, donc pour en terminer avec ce qu'on a commencé à dire, 4 victoires sur 4 petits tours et la chute, fracture du bassin. Sur la classique qu'il avait coché, le Tour de Lombardie.
Ouais, le tour, c'est la chute terrible, hein, parce que c'est dans la descente du Sormano, le grand sommet du Tour de Lombardie. Et malheureusement, il s'est fait un peu avoir aussi par Nibali, hein, le grand descendeur. Il a voulu le suivre pour rester au contact et finalement,
Arrivant au niveau du pont, il est passé par-dessus le parapet. Mmh. On l'a cru mort.
Ah on a eu très peur, hein, parce qu'en soi, une chute comme ça, ça peut avoir des conséquences sévères. Hein.
Une bonne vingtaine de mètres, il est tombé du bon Costol. Côté, parce que de l'autre côté, c'était 30 mètres de chute directe.
Costol, le gamin, lui, qui était pressenti leader de la De Koninck pour le Giro, donc malheureusement pour lui... Saison terminée, alors bonne nouvelle, il a repris l'entraînement là.
Ouais, il a repris tout récemment et tout, donc ça c'est une bonne nouvelle pour lui.
Il est en préparation là aux Canaries sur le pic de Ted, hein, là où Pinot allait faire aussi ses préparations d'avant-saison en altitude. Et on n'a pas le programme pour lui, mais...
Mais il a annoncé que je pense qu'il fera sans doute les Jeux Olympiques, sachant que c'est juste après le Tour de France, donc on n'aura pas la chance de le voir sur le Tour de France, mais il se consacrera d'abord sur soit la Vuelta ou le Giro.
Ouais, c'est ça, on attend de connaître son programme. Alors, Evenepoel n'était pas là, mais il y avait d'autres Belges dans ce début de saison qui ont brillé, et on va parler du nouveau roi, enfin, selon moi, les garçons. Wout van Aert, hein. Wout van Aert qui, qui claque la première classique le 1er août, c'était l'Estrade Bianche.
Ouais, l'Estrade Bianche.
Celle qu'on a envie d'appeler le sixième monument. Hein.
Mais c'est un peu ça, parce qu'elle est très belle à regarder. C'est
exceptionnel.
Des chemins de terre, dans les vignes, en Italie.
L'Estrade Bianche, littéralement, les chemins blancs.
Les chemins blancs, exactement.
Et une course pour puncheurs, hein, parce qu'il y a des petits dénivelés
et
quand même.
Et pour chanceux.
Ouais.
Et pour chanceux, parce qu'il y en a qui n'ont pas eu de la chance. Hein, la Philippe qui a énormément.
Tenant du titre.
Qui tenant du, exactement, tenant du titre.
C'est le tenant du titre, on l'attendait. Bon, comme Mathieu Van Der Poel, ouais. Problème mécanique et crevaison. À répétition pour lui. Donc, dans une course comme ça, on ne revient pas.
Hein. Non. Après, une fois qu'ils sont partis, surtout quand devant, il y a des Van Aert. C'est des machines à rouler hein, et eux ils prennent un peu d'avance, tu les revois plus.
Ouais, c'est comme le Paris-Roubaix quoi. Si tu crèves, c'est foutu.
Ah, exactement, c'est le même genre de course.
Et première grande classique et première victoire de la saison pour Van Aert qui gagne en solitaire, hein, qui s'est défait de Sachmann et Formolo dans la côte pour l'arrivée à Sienne.
Exactement, il a montré qu'il était le plus fort et c'était un des favoris, il l'a montré.
Ouais.
C'est pas une grande surprise en soi.
Non, mais 8 jours plus tard,
il récidive.
Cette fois-ci sur la Primavera. Donc pour le coup, là, le premier monument de la saison. On attendait le match avec Julian Alaphilippe.
Il a eu le match.
Le match a eu lieu. Hein, après la descente du Poggio.
C'est ça, c'est dans le Poggio.
Trois hommes se détachent pour une arrivée au sprint.
C'est ça, c'est Alaphilippe qui attaque dans le Poggio, qui dans la descente fait un petit peu peur sur les premiers virages et qui du coup, Van Aert a réussi à aller le récupérer. Et au sprint après, Van Aert, on sait qu'il est fort. Hein. Même si Alaphilippe a des qualités, Van Aert reste pour moi un meilleur sprinter quand même. Il a plus de ces capacités-là que Alaphilippe. Victoire logique. On est un peu déçu quand même en tant que Français.
En fait, c'est la descente du Poggio. Il faut être un peu un acrobate.
Et très sinueuse. Hein.
Le fait de faire du cyclo, ce qui est le truc d'origine de Wout Van Aert, il est toujours très fort d'ailleurs dans ce domaine, ça aide à accepter de prendre des risques un peu dingues. Quoi. Et je pense que c'est ça qui a fait la différence sur le.
Mais sur pour la le coup, Alaphilippe au rendez-vous. Hein, puisque...
Bien sûr.
Ah bah oui, Alaphilippe au rendez-vous, on l'attendait. Est-ce que après le seul souci, c'est peut-être que le Poggio n'est peut-être pas assez dur pour pouvoir faire la différence comme dans les championnats du monde, on en reparlera après.
Je pense que c'est ça aussi.
Ce qui a fait la différence. Sinon, je pense qu'il est lâché parce qu'il était très 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 fort sur la fin du Poggio, on l'a vu, hein, il a détaché tout le monde.
Ouais, et c'est dommage parce qu'il aurait pu se payer un doublé, français.
Il n'y a pas ce sens de pouvoir finalement entre Alaphilippe et Van Aert. Alaphilippe qui avait gagné les deux classiques italiennes l'année dernière et là cette année c'était Van Aert.
Ouais, et puis la moisson de victoire continuera sur le tour, on en parlera un peu plus tard pour Van Aert. Ouais, Jean-Marc.
Non, je voulais dire que du fait que c'est la montée en puissance tout au long de Wout Van Aert qui nous prouvera par ailleurs sur les autres tours qu'il sait de mieux en mieux grimper. Quoi.
C'est ça.
Et ça fait la différence sur le Poggio, sur les classiques.
Et une dernière chose sur le Milan-San Remo, c'est que c'est Peter Sagan qui ne gagne toujours pas la classique, qui quand même lui est due. Hein. Techniquement, c'est parfait. Comment dire, c'est parfait pour lui.
C'est la seule qui lui manque, non ?
Non.
Il en a plusieurs.
Non, il a pas les quatre, mais effectivement, celle-là, il l'a pas encore claqué.
Alors, il fait deux fois deuxième en 2013, je crois, et 2017. Mais il passe pas loin à chaque fois. Mais
saison sans victoire pour lui. Alors, ouais. Est-ce que c'est fini, Sagan ? Certainement. Dans la catégorie des punchers, il y a des nouvelles têtes qui arrivent. Et...
Tu vas encore nous enterrer un champion.
Faut pas l'enterrer, mais
on verra sur la
saison.
Il aura
peut-être évolué, par contre, dans sa façon de courir. Sache, je suis plutôt d'accord avec toi si c'est ce que tu veux dire.
Toujours est-il que les classiques continuaient samedi après samedi. Et là, on arrive au Tour de Lombardie. Hein, donc, c'était la dernière classique avant la préparation. Le Dauphiné commençait dès le lundi d'après. Et là, c'est Jacob Fuglsang qui s'impose sur cette classique.
Oui, Jacob Fuglsang, c'est le Danois qui avait déjà gagné une classique. Hein, il avait gagné Liège-Bastogne-Liège. Donc, il faisait partie des outsiders favoris qui participaient. Même si on voyait quand même, avec la chute d'Evenepoel, on le voyait quand même le gros monstre qui était là. Et sa chute, finalement, il a profité. Puis, face à Bennett, il a bien aidé par ses coéquipiers quand même. Hein, Fuglsang avec Vlasov qui l'emmène et tout. Bennett a essayé d'attaquer, George Bennett, l'Australien de l'Auto Jumbo. Et finalement, c'est Fuglsang qui l'a contré. Fuglsang était fort. C'est
peut-être un peu une victoire d'équipe du coup.
Oui, il y a ça, c'est que leur équipe était très forte, donc Non, ils ont eu une belle victoire pour Fuglsang Monument à son palmarès.
Ouais, déjà pour le Danois. Mmh. Déjà deux monuments. Donc on arrive pour la préparation du Tour de France avec le Dauphiné libéré qui va revenir à Daniel Martinez, le Colombien d'Education First. Ouais, première victoire, grande victoire en carrière pour ce coureur. Hein.
Devant Thibaut Pinot en plus.
Hein, on en parlera après, il change d'équipe. Hein. Daniel Martinez, ouais. Il rejoint Ineos.
Effectivement, comme tous les Colombiens. Je veux dire.
En tout cas, oui, Egan Bernal ou d'autres.
Il y en a d'autres. Hein,
et deux Français
Carapaz
qui...
Carapaz aussi, ouais. Il est.
Et deux Français qui se classent bien sur le Critérium Dauphiné, puisque Guillaume Martin et Thibaut Pinot font 2 et 3.
Ouais, bah Thibaut Pinot, c'est dommage pour lui parce qu'il avait le maillot de leader avant la dernière journée. Finalement, il le perd sur la dernière étape. Mais il n'est pas passionnant, mais c'était une bonne préparation pour le Tour de France. Malheureusement, c'est mal passé. Mais Daniel Martinez, c'est très solide quand même. On l'a vu, de toute façon, sur le Tour de France aussi et tout.
On y arrive sur le Tour. Ouais, tu l'as dit, c'est solide puisqu'il va quand même claquer une étape. Martinez et montrer qu'il faudra compter avec lui pour la saison à venir. Alors,
sachant qu'il est pas sûr de participer au Critérium du Dauphiné là qui a été annoncé là qui est bientôt, il est pas encore sûr de pouvoir y participer pour défendre son titre.
Et le tour, une fois n'est pas coutume, hein, se déroule au mois de septembre. On attendait beaucoup de cette course. On avait coché un grand favori, hein, Egan Bernal, pour la défense de son titre. Et Bernal a été est passé à côté. Hein. Il craque dans la grande étape du Grand Colombier. Et il est contraint même à l'abandon. Hein,
La 17e étape.
2 jours après. Exactement. Qu'est-ce qu'on retient de ce tour? L'avènement d'un nouveau coureur, hein, Tadej Pogacar.
Tadej Pogacar, le Slovène, annoncé de toute façon depuis 1 ou 2 ans d'être la relève du cyclisme, hein, dans la génération Evenepoel et tout.
Alors il était monté sur le podium de la Vuelta, hein, l'année d'avant. Il avait un petit pédigré, mais...
C'est que la Vuelta, faut faire attention.
C'est ça, et au rang des outsiders sur cette course.
C'est ça, on le savait qu'il allait être présent, qu'il était là, mais de là à aller gagner le Tour de France, c'était quand même quelque chose qu'il fallait annoncer, hein, parce que... Il y avait quand même du lourd en face. Hein. Il y avait quand même Roglic, le grand favori, qui finalement, c'est un peu...
Ouais,
raté Roglic, sur la dernière étape surtout. Mais...
Roglic, effectivement, annoncé favori, mais un favori sans panache, est-ce que ça peut gagner le tour?
C'est exactement, c'est pour ça que moi, je me dis, en réfléchissant et tout, Roglic, pour moi, a raté son Tour de France parce qu'il a l'occasion de le crucifier surtout sur les 2 premières semaines où on le voit, on le sent qu'il est vraiment supérieur aux autres et que finalement il se dit.
Avec une équipe, surtout.
Mais surtout, voilà, avec Tom Dumoulin,
Van Aert.
Il a vraiment une équipe et on l'a senti sur la retenue. Il voulait pas trop en faire, se préserver. Et je pense qu'il se disait peut-être aussi dans sa tête, c'est qu'avec les contre-la-montre, je suis au moins égal en termes de performance sur les contre-la-montre. Donc tant que je suis en tête et que je gère les autres grimpeurs, je n'ai pas de souci à me faire. Finalement, il s'est fait un peu avoir à son propre jeu.
Ouais, et puis Jean-Marc, la faute revient à son équipe. Hein, c'est à la Jumbo de donner le tempo de la course. Et quand il faut tuer les autres, il faut pas se gêner. Hein, sur un tour comme ça, on l'a vu, puisque c'est à la dernière étape qui rendra le maillot jaune.
C'est ça, j'ai pas mieux. En fait, il pensait pouvoir aller jusqu'au bout, jusqu'au contre la montre et rester devant. Et puis en fait, pas du tout.
Oui, parce que sur la dernière étape face à la Flandre Belle-Fille, il était surtout face à Pogacar, sachant que sur les championnats de Slovénie du contre la montre, ils étaient à peu près au même niveau.
C'était pour la même cote. Hein.
Non, c'était pas la même cote.
Pogacar avait déjà gagné.
Oui, Pogacar avait gagné d'un peu d'avance.
Il pouvait prendre sa revanche.
Ouais. Voilà, c'est ça. Et sachant qu'il avait déjà de l'avance, Roglic, il s'attendait pas certainement pas à ce que Pogacar lui mette une mine comme il lui a mis dans le planche des Belfi.
Est-ce que Pogacar est le nouveau roi du Tour de France? Est-ce que sa victoire va en annoncer d'autres? Ou alors ça restera un épisode unique dans sa carrière? Ça, un peu tôt pour le dire, mais est-ce que vous croyez que ce coureur peut remettre le couvert dès cette année? Et puis, sachant qu'il est toujours dans la même équipe, hein, qui n'est pas une grosse écurie. Hein.
C'est ce que j'allais
Team
Emirates. Ce que j'allais dire, c'est ça, c'est l'équipe.
Bah, la UAE, ça reste...
Bon, il avait la même hein, cette année, il a gagné tout seul.
Voilà,
hein, on rappelle, hein, trois victoires sur la grande boucle. Hein, et des victoires au panache. Hein.
Ah c'est ça, et surtout, il y a une victoire au sprint face à Hirschi et Roglic. La deuxième, bon, on l'a vu, c'était en montagne. Il a montré qu'il était le plus fort.
Ouais.
Face à Roglic.
Et pendant tout le tour, hein, il n'a pas cessé de réduire le retard qu'il avait au général, de seconde en seconde, hein, puisqu'on rappelle que le pauvre avait été pris dans une bordure en plus.
Oui, c'est ça, c'est qu'en plus, il est pris dans une bordure. Donc,
relayé à 2 minutes de la tête, et il a fallu qu'il aille chercher les bonifications et faire des différences au sommet, sur les arrivées au sommet, et uniquement au sommet. Et...
Il a été annoncé par beaucoup de spécialistes, ou soi-disant, comme étant... Enfin, c'était foutu pour lui. On le reverrait pas. On le reverrait à peine dans les 10, quoi.
Oui, mais surtout qu'il y a une étape où Roglic le laisse reprendre Pogacar. Enfin, Pogacar a repris 30-40 secondes, quoi, sur cette étape. On a l'impression que Roglic l'a laissé aller. Il a pas...
C'est ce que j'allais te dire. Et là, pour moi, la faute, elle est là pour Roglic. C'est dans cette étape où il le laisse prendre ses 40 secondes. Je sais plus, c'est dans les Pyrénées, je crois.
Oui, c'est la deuxième semaine, à mon avis. Et il le laisse, on se dit, mais c'est les amitiés slovènes, mais sauf qu'à la fin, c'est ce qu'il a laissé un peu passer par-ci par-là, le Tour de France, on peut le dire.
Ouais, alors sur ce tour, qu'est-ce qu'on va relever des révélations, un certain Suisse, Marc Hirschi, qui se fait découvrir.
Énorme, là. C'est le protégé de Fabian Cancellara, qui est son agent. C'est la grosse surprise, hein, on le sent.
Une victoire sur le tour, mais beaucoup de place d'honneur.
Ah, hein. Mais beaucoup de place d'honneur. Et d'ailleurs, il a remporté le prix de la combi beaucoup dans les échappées. Il aurait pu en remporter quasiment 3, parce qu'il y en a une où il passe pas loin au sprint, où il est repris dans les derniers kilomètres.
Oui, la première étape où il se fait reprendre dans les derniers kilomètres.
Il est avec Julian.
Et encore, on dit une bêtise, parce qu'il y a première étape.
La victoire de Julian.
Le Nice-Nice par le col du Turini, avec la victoire d'Alaphilippe, hein, qu'il avait coché d'ailleurs. Donc, autant dire que Alaphilippe avait bien commencé son Tour de France, aussi bien que l'année dernière. Et il est accompagné justement par Marcel Hirschi.
Marc
Hirschi, oui. Marcel Hirscher.
Voilà, il est truchien, Marcel Hirscher, et il fait pas de vélo, il fait du ski.
Il s'est réglé au sprint par Alaphilippe, mais il était pas loin de sa première victoire.
Et quand on a vu ce qu'il avait fait, quand il a suivi quand même Alaphilippe, qui est quand même un des plus gros cyclistes actuellement au monde, on s'est dit, il a du gaz, le jeune. Et effectivement, il l'a prouvé sur les étapes d'après, on a le remporté une en passant.
Sarre en Corrèze, notamment.
Ouais. Et il a pas passé.
Table de moyenne montagne.
Et Hirschi qui d'ailleurs a quitté la Sunweb pour passer chez UAE Team Emirates. Avec Pogacar.
Pogacar, Hirschi, voilà. C'est, en fait, à la voulait en finir, c'était l'arrivée d'Hirschi avec Pogacar et ça va changer l'équipe. Et c'est pour ça qu'on pourra revoir Pogacar, je pense, tous les deux, s'ils s'entendent bien, ils peuvent faire des choses, quoi.
Ouais. Il y a moyen, là, ils ont quand même l'équipe Team Emirates a quand même deux beaux jeunes avec eux dans leur équipe, très prometteurs sur l'avenir. Donc là.
Ah, la relève, hein, clairement.
La relève.
Hein. C'est clairement la relève. Oui,
quand tu as ce genre de coureur, tu peux aussi en faire venir d'autres plus facilement.
Ça donne
parce
envie.
qu'ils ont envie d'aller courir, d'aller les aider à gagner.
Et après, juste une dernière chose, comme tu disais sur Pogacar. On a vu Bernal l'année dernière, en 2019, le gagner. On s'est dit, ça va être Bernal qui va tout rafler à chaque fois et tout.
Pendant 5 ans.
Et finalement, pas du tout. Donc, attendons de voir pour Pogacar. Mais en tout cas, c'est des belles promesses pour lui.
Ouais. Et on continue dans ce tour. Et Van Aert qui confirme son bon début de saison, puisqu'il claque là aussi encore deux étapes. Au sprint.
Et c'est surtout ça qui est impressionnant.
Alors, le mec fait le train en montagne, il claque tous les sprints, il sait tout faire, ce coureur.
Mais c'est incroyable, et je pense que s'il n'avait pas été équipier, entre guillemets, où l'équipe lui a demandé surtout de faire l'équipier, il aurait pu en gagner beaucoup plus, bien d'autres. Hein. Mais c'est impressionnant.
Il sera peut-être aligné sur un grand tour en tant que leader alors cette année. Hein.
Il y a même une, je ne sais plus quelle étape, où il appuie tellement fort que Roglic n'est même plus derrière lui et qu'il reçoit un coup de fil de son directeur sportif. Arrête-toi, lève le pied parce que tu es en train de perdre
derrière,
Roglic.
Ça suit pas, ouais. Non, mais c'est incroyable. Et on est impressionné parce qu'en plus, en contre-la-montre, il est aussi exceptionnel. Il est bon partout. Quoi. C'est un peu comme Evenepoel. Il est un peu plus vieux, évidemment, qu'Evenepoel, mais ça reste quand même...
Et en plus, il fait du cyclo. Hein.
En plus, il fait du cyclo.
Il gagne la Coupe du Monde de cyclo.
Mais pas les championnats du monde.
Voilà. Non. On terminera avec ça. Hein. On y reviendra. Donc, sur ce tour, lui, bon, ça a été un grand artisan de ce Tour de France, hein, autant au niveau des victoires, mais de coéquipier de luxe pour Roglic. Bon, bien mal pour eux, ils ne gagneront pas finalement la grande boucle, mais la saison de Van Aert est lancée, elle est parfaite.
Une dernière chose à dire sur le Tour de France, c'est aussi Sagan qui effectivement du coup ne remporte pas encore un huitième maillot vert, parce que lui qui était à chaque fois assuré.
Il sera pour Bennett celui-ci.
Exactement, c'est ce que j'allais dire, c'est pour Sam Bennett, le sprinter de la Deceuninck Quickstep, hein, il a le nez fin Patrick Lefebvre en tout cas, ouais. Parce qu'il arrive à se renouveler à chaque fois, hein, entre Marcel Kittel, Gaviria, Viviani, et là c'est Bennett.
Bennett qui gagnera l'étape Reine des Champs. Hein.
Ouais, ça c'est une belle victoire.
Et là où il a été fort, c'est que plusieurs fois on s'est dit c'est pas possible, il va sauter.
Mais oui.
Et il va abandonner, et au moins trois étapes dans la montagne. Tu dis là, Bennett, il peut pas le passer, il a pas le physique, ça va pas. Non, il a toujours réussi à s'en sortir.
Manquait quelques sprinteurs hein, quand même hein, sur ce tour. On pense bien sûr au forfait pour suspension de Groenewegen.
Groenewegen, évidemment.
Le sprint de la Jumbo Visma hein, qui
nous avait fait une sacrée frayeur dans le Tour de Pologne
face à Fabio Jacobsen qui l'avait envoyé dans les barrières.
Ouais, et suite à ça, pas de tour pour lui. Qu'est-ce qu'on n'a pas vu non plus sur Pascal Ackermann n'était
Pascal
pas là.
Ackermann, ouais, non, il était
donc
pas là.
Il manquait, quelques pointures, il était sur la Vuelta.
Et puis notre cher français qui était réservé pour le Tour d'Italie,
Arnaud Démare.
Mais moi, je trouvais ça très bien. Je trouve ça logique. J'aime bien que la FDJ court beaucoup plus tactique maintenant que...
Peut-être pour ça aussi que Van Aert claque de sprint. Peut-être qu'il y avait un peu moins d'épaisseur dans les sprints massifs
Il y avait Caleb Ewan. Il y avait quand même... Il y avait quand même deux, trois noms. Après, c'est vrai que bon, on n'était pas sûr non plus. Il n'y avait pas tous les sprinteurs, les grands sprinteurs réunis comme on aurait pu le voir sur d'autres années. Mais ça reste un beau maillot vert pour Sam Bennett, et surtout que Peter Sagan ne le gagne pas, sur quelques étapes, parce qu'effectivement il a eu un problème mécanique hein, sur une étape alors que Bennett n'était pas là, il n'était pas dans le sprint, je crois bien. Donc c'est dommage pour Peter Sagan, parce qu'il aurait pu remporter un nouveau maillot vert, mais c'est mérité pour Sam Bennett qui a fait un beau Tour de France, il s'est bien battu dans la montagne et tout.
Moi j'aurais bien voulu que Brian Coquard en claque une.
Ah oui.
C'est pas passé loin, il a fait des belles choses.
Non, mais il est toujours en soi placé. Hein. Mais malheureusement, il y a toujours un ou deux mecs devant.
Plus fort que lui, exactement. En fait.
Et le couronnement donc de Tadej Pogacar devant Primož Roglič, deux Slovènes aux deux premières places, là aussi... Du jamais vu.
Ça a éveillé quelques commentaires, pas toujours très sympathiques vis-à-vis des Slovènes. Hein.
Exactement. Il y avait déjà eu des affaires chez les Slovènes, donc forcément.
Il y a toujours. C'est un peu le problème du cyclisme, ouais. C'est que dès que tu as un pays qui est un peu fort, on se pose des questions sur le fonctionnement. Après, voilà, pour l'instant, il n'y a rien de prouvé, donc.
On ne dira rien.
On va les respecter.
Exactement. Et avec la troisième place de Richie Porte.
Oui. Premier podium hein, sur le tour hein, pour Richie, qui n'a jamais été très chanceux hein, dans cette course. Hein, souvent contraint à l'abandon, alors qu'il était souvent annoncé favori, l'Australien. Une belle récompense hein, pour ce coureur courageux, Richie Porte. Alors, les tours se succèdent, hein, puisque sitôt le tour terminé, c'est le Giro qui commence. Et là, on a commencé à parler d'un Français qui...
On s'est régalé.
Qui ne s'était pas aligné sur la grande boucle. Cette année, ça sera le cas, il y sera, Arnaud Démare. Mais Arnaud Démare, ouais, sur le Giro, c'est un festival, hein, il rafle tous les sprints massifs.
Ah oui, il a quasiment...
4 sur 4.
Exactement, c'est c'était...
14 victoires dans la saison, c'est lui qui a le plus gagné également, hein, puisqu'il a claqué... Il a claqué d'autres victoires. Milan-Turin,
surtout,
ouais,
une
belle classique. Et puis, sur des petits tours aussi, il était là. Et puis, le titre de champion de France.
Exactement, aussi, en plus. Hein. Donc, une belle saison pour Arnaud Démare.
Ouais, le maillot cyclamen, hein, première pour lui. Et puis...
4 étapes, c'était pas arrivé. C'était la première fois, je crois, depuis Hinault.
Petaki,
qu'un Français claquait 4 étapes. Enfin, je sais plus. Mais c'était pas arrivé, donc... Donc bien.
Donc avec l'absence de Remco Evenepoel, hein, qui était annoncé comme
un des favoris,
puisqu'on l'avait pas encore vu à l'œuvre, et c'est trois coureurs, hein, qui vont.
Trois coureurs, dont un qui m'a bien marqué et tout. Il y finira pas sur le podium, mais
Almeida,
João Almeida de l'équipe de Can-Am-Quick-Step, qui nous a régalé pendant ce Tour d'Italie.
Il a fait 2 semaines
Il a fait 16 jours.
16 jours en rose.
16 étapes en rose et tout et. Avec un panache incroyable, il va grappiller les secondes là où il faut et tout. C'est à l'inverse d'un Roglic, par exemple. Et il s'est battu. Bon, il a malheureusement craqué au lac di Cancano sur la 18e étape.
Ouais, on annonçait qu'il l'aurait perdu.
Voilà, on sentait qu'il était un peu moins fort sur certaines étapes de montagne face à d'autres.
C'est un petit peu comme l'année d'avant à la Philippe sur le Tour de France. Il y a un moment donné où il allait rendre les armes.
On y voulait bien y croire.
C'est ce qui s'est passé, mais sur ce tour, Jean-Marc, il y a trois jeunes sortis du bois, hein, qui viennent monter sur le podium. Tao Gegenhardt de la Ineos, qui sera le vainqueur de l'épreuve.
Qui gagnera sur la fin. Hein.
Mais il gagne.
Sur le contre-la-montre.
Il prend le général sur le contre-la-montre, finalement.
Et qui profitera, malheureusement, et ça m'a un petit peu embêté, c'est que les dernières étapes, il y avait notamment une étape qui passait du côté de Briançon en France.
Ouais.
Décision gouvernementale, on n'a pas voulu les laisser passer. Et c'est vraiment dommage parce que je pense que cette étape qui fait que finalement on a tourné autour de
Sestrière,
elle était beaucoup moins intéressante alors qu'annoncée par le col Daniel.
Ouais, mais ça aurait pu faire des beaux
je
dégâts.
Pense
Est-ce que Jay Hindley aurait pris le rose à ce moment-là?
Non, parce que même sur l'étape de Sestrière, on l'a vu, ils étaient au coude à coude. Et même Jay Hindley était beaucoup plus. On le sentait qu'il avait envie de se donner. Gao Gegenhardt le rejoignait à chaque fois sur les attaques. Donc je pense que ça.
Je sais pas, moi je pense que en fait c'était un moment on a douté pour Tao Gegenhardt sur justement quand ça montait très très fort, c'était sur le Stelvio. Où ça s'est joué et puis après du coup c'était repassé. On a eu un doute sur le Stelvio et puis après du coup comme c'était moins fort avec ce trois passages sur Sestrière, finalement je pense qu'on a
raboté.
On n'a pas pu aller au bout et c'est un peu mon regret.
Mais celui qui doit avoir beaucoup de reste, c'est Wilco Kelderman.
C'est lui qui a arbitré le duel et qui finit troisième finalement. Et longtemps, mais il avait la possibilité de...
Il passe complètement au travers.
Il passe au travers parce qu'il il prend le maillot rose à Almeida, du coup au lac di Cancano. Et après, qu'est-ce qui se passe? On le voyait fort, mais finalement, il s'est fait manger par les deux jeunes.
Moi, je t'avoue que je le découvrais. Hein.
Surtout, Hindley l'a attendu sur certaines étapes.
Oui,
c'est là qu'en fait, finalement, ça gâche un peu tout, parce qu'on se dit, si Hindley, il attaque vraiment à fond Tao Gegenhardt sur le Stelvio, est-ce qu'il ne prend pas suffisamment d'avance pour sortir Tao Gegenhardt de la course?
Parce qu'en soi, finalement, il finit qu'à 39 secondes. Donc en soi, c'est vrai qu'on peut le dire qu'il n'est pas passé loin, hein, il est. Mais c'est dommage pour lui. Mais après, surtout, ce qu'on voit, c'est surtout c'est que c'est les jeunes qui prennent le pouvoir, là. Hein. Parce que Nibali,
On va faire la liste des jeunes qui ont pris le pouvoir, ouais, effectivement, comme tu dis. Et puis, il n'y a qu'à regarder les résultats sur cette année, hein. Entre les Van Der Poel, les Van Aert. Tiens, on reste sur le Giro. Il y en a un aussi qui a bien marqué cette édition, c'est Philippe Ogana avec 4 victoires également.
Mais 4 victoires, dont 3 contre la montre. Enfin, ouais. De toute façon, on le sait que c'est le grand favori
de tous les contre-la-montre, le futur champion olympique.
Le seul qui a battu Ghana sur un contre-la-montre sur la saison 2020-2021, ça reste quand même Remco Evenepoel sur le Tour de San Juan. Donc finalement, on se dit, mais il est quasiment imbattable.
C'est ça.
Sachant qu'Evenepoel est quand même champion d'Europe, était champion d'Europe de contre-la-montre en 2019. Ben, il est monstrueux, Philippe Ogana. En plus, en montagne, il a vu quand même qu'il avait 2-3 qualités quand même, hein, pour grimper. Il vient
et puis
encore
il fait
de
pas
gagner.
Gagner des contre-la-montre, puisque sur l'étoile de Bessèges, hein, il s'échappe et il gagne.
Mais oui, c'est ça. C'est qu'il a, aussi en plus des qualités de rouleur qui lui permettent de aussi gagner des petites étapes comme ça et tout.
On espère, pour lui qu'il aura récupéré à 100% et qu'il pourra, sur les Jeux Olympiques par exemple, embêter l'Italien Philippe Ogana.
On suivra ça. Donc un Giro plutôt cocorico en tout cas, hein, puisque avec Arnaud Démare, hein, ça a été passionnant de suivre cette édition 2020.
Oui, après, j'ai bien aimé moi.
Moi, parce que je l'ai regardé, j'ai énormément aimé ce Giro. Mais ce qui est dommage, c'est quand même Geraint Thomas qui chute et qui abandonne, Adam Yates qui sur Covid doit abandonner et Kruijswijk qui se retire avec son équipe. C'est pour ça que je me dis, alors est-ce que le Giro, est-ce que les jeunes de ce Giro ont été si forts que ça, ou est-ce que c'est parce que le niveau était
un concours de circonstances, évidemment, aussi, j'ai envie de te dire, puisque c'est vraiment trois noms sortis du bois hein, là qu'on a découvert avec Hinley, Kelderman et puis
Gauguenhart.
Ouais,
et Almeida aussi.
Second couteau de la Ineos, hein, il faut le dire. Hein, bah, trois leaders dans cette équipe et lui, il venait bien après en lieutenant. Donc, en tous les cas, ça fera un grand tour pour lui. Hein, tant mieux pour le Britannique.
Et encore, Ineos qui gagne un grand tour. Hein, ils en gagnent à chaque année. C'est quand même incroyable.
Bah, l'année dernière, c'était avec Carapaz qui avait gagné le Giro déjà. Hein,
et avant, c'était Froome. Ouais. C'est incroyable. Ils sont toujours là. Même quand on s'y attend plus, ils disent il n'y a plus Thomas. Et y a quand même un Ineos qui est là. Ils sont incroyables.
Et parallèlement à tout ça, les classiques, les Ardennaises et les Flandriennes se déroulaient pendant le Giro.
Ça fait bizarre, mais bon, quelque part, ça a montré certaines choses. C'est pas forcément un mal. C'est dommage pour le spectacle, parce que c'est compliqué à regarder. Il faut presque deux écrans pour un peu que c'est à la même heure. Mais ça permet de mettre vraiment des spécialistes. On a vraiment vu les équipes être obligées de faire des choix.
C'est ça. Et pas exactement, ça va être des choix tactiques, stratégiques.
Complètement.
Et on l'a vu. Hein,
de toute façon. Et du coup, de se donner à fond, quand ils avaient un objectif, ils étaient obligés de jouer le coup à fond parce qu'ils ne pouvaient pas se rattraper sur la classique ou le tour qu'ils ne faisaient pas en dehors. Donc,
Alors, on va commencer par la classique peut-être la moins intéressante. Hein, c'était Gand-Wevelgem. Victoire pour Mats Pettersen.
Ouais, devant Florian Sénéchal.
À noter, ouais, podium pour le français.
Podium pour le français, donc c'est plutôt sympathique.
Mais ça commençait vraiment avec la flèche wallonne le mercredi suivant. Et Mark Hirschi, cette fois-ci, ça y est, première classique pour lui en carrière, hein, avec beaucoup d'autorité, hein, devant un autre français, Cosnefroy, donc. Encore un Français qui collait encore un Français sur la boîte et Michael Woods pour compléter le podium. Une arrivée dans la dernière côte hein, où il y avait quand même pas mal de favoris qui pouvaient s'imposer. On a vu Pogacar qui a pas pu développer hein, sur les derniers mètres sa puissance pour s'imposer là dans ces arrivées. Il faut être un vrai puncher et pas un grimpeur.
Bah c'est ça, faut être un vrai puncher. Est-ce qu'on peut regretter qu'Alaphilippe n'y ait pas participé? On peut, il était tenant du titre, double tenant du titre.
Et il se préparait pour la course de dimanche. Hein.
Exactement.
C'était Liège-Bastogne-Liège, un monument.
Bah, c'est compliqué. Hein, là, vraiment, quand on parle de choisir.
Ouais, c'est ça. Avec le calendrier resserré à cause du Covid, effectivement, ils ont dû faire des choix.
Liège-Bastogne-Liège, c'était la course pour Julien. Hein,
c'était sa course.
On va dire qu'il l'a gagnée.
Non, il aurait dû.
Vidéo gag, hein, c'était ah, la séquence. Le type qui lève
le bêtisier.
Le type qui lève les mains, qui croit qu'il a gagné.
Et qui se fait sauter sur la ligne.
Exactement, mais c'est quand même incroyable, hein, quand même. Hein,
c'est qui, c'est Roglic qui le saute sur
la
ligne.
C'est Roglic devant Hirschi.
Qui déboîte sur la droite.
Oui, erreur, mais comme quoi il est humain. En fait, ça le rend humain aussi.
Mais c'est ça, mais après il a été déclassé suite à son accrochage avec Hirschi.
Oui, on va dire parce qu'il y a eu accrochage aussi à la finale.
On le sentait quand même un peu moins souverain quand même sur.
Mais comme je vous l'ai dit, hein, s'il gagne la course, on ne revient pas sur l'accrochage.
Non, c'est ça, parce qu'en plus, à ce moment-là,
l'accrochage, c'est
pour
finalement pour lui enlever un petit peu.
En plus, il était champion du monde à ce moment-là, parce qu'il maillot de champion du monde. Et c'est quand même, je pense que le jury
ne peut pas.
Ils n'auraient
pas pu le déclasser.
Donc c'est vraiment, c'est de l'expérience. Il le sait, il le saura maintenant.
C'est comme ça qu'on apprend.
C'est comme ça qu'on apprend, exactement. Il a pu récidiver comme juste après.
Puis Roglic, du coup, la pilule, elle passe mieux après avoir perdu le tour sur la dernière journée, griller à la Philippe sur la ligne. Donc ça fait quand même un beau vainqueur pour cette classique. Alors, les dimanches se suivent et se ressemblent pour Alaphilippe, parce que sur le Tour des Flandres,
il est dramatique, le Tour des Flandres.
Ils sont encore trois pour une victoire. Et là, on a trois coureurs, trois gros punchers.
Il s'échappe à trois.
Wout van Aert, Mathieu Van Der Poel, et là, le pauvre Julien qui se prend la moto.
C'est quand même incompréhensible. Les motos...
La
sur
manœuvre, mais qu'est-ce qu'elle foutait là,
mais
cette
c'est incroyable,
moto
mais on a l'impression de se répéter chaque année. À chaque fois, il y a un souci avec des motos. Il y a eu sur le Tour de France avec Froome, il y avait eu sur le Giro avec l'équipe Ineos qui s'était pris une moto qui était sur le bas-côté, mais c'est incroyable.
D'ailleurs, le pilote était navré, mais.
Bah oui, heureusement qu'il est navré.
Enfin, quelque part, oui, qu'est-ce qu'il foutait là? Il y a quand même une organisation de course. Alors, est-ce que ça fonctionne différemment en France ou en Belgique, je ne vais pas attaquer l'organisation belge, mais normalement, ils ne devraient pas être dans l'axe de course des.
C'est ça, ils devraient.
Ils sont censés pouvoir manœuvrer et passer de l'autre côté.
Et eux à l'extérieur.
Et le pauvre Julien qui est vraiment dans la roue. Donc
qu'il ne le voit pas arriver.
Il est concentré à regarder la roue et du coup, quand il lève la tête, c'est trop tard et il est dans
le truc
de la moto.
Parce qu'avec le recul, on se dit qu'il aurait peut-être deux monuments de plus.
Il aurait pu les avoir, même trois, parce qu'il aurait pu aussi gagner San Remo, il aurait pu gagner.
Oui.
Il n'est pas passé loin à chaque fois. Mais c'est vrai que en plus là, il était dans la roue de Van Der Poel à ce moment-là, et Van Der Poel qui se décale, et après lui, il a pas eu le temps de voir la moto, et c'est vraiment un souci parce que on a l'impression qu'il y a plus de motos de cyclistes bientôt sur les courses. Alors
c'est ça. Moi, je me pose aussi la question sur tous les...
L'utilité de...
D'autant de motos.
Vous voyez ce Tour des Flandres qui va revenir à Mathieu Van Der Poel.
Au sprint.
Wout van Aert.
Van Aert au sprint. Ouais, donc. C'est un bon monument pour Van Der Poel.
Qui ne fait pas que gagner en cyclocross.
Exactement.
C'était une très belle perf.
Mais il reprend, c'est une belle performance, parce que c'était quand même Wout van Aert, hein, qui sort une saison exceptionnelle. Fallait aller le chercher au sprint, surtout, non plus. Donc on est content pour lui.
Ouais, puis il y a une course dont on n'a pas parlé, c'est les championnats du monde. Alors là, pour le coup, celle-ci, elle avait été cochée par Julien Alaphilippe, il rêvait de lui maillot arc-en-ciel.
Et c'était une course magnifique d'équipe. Les hommes de... Comment s'appelle-t-il, aidez-moi.
Vauclair.
De Thomas Vauclair. Thomas Vauclair avait tout organisé au millimètre en disant « Julien, il va attaquer à tel endroit ». Et du coup, les gars, faites le job. C'est Guillaume Martin qui fait un boulot de ouf, je crois.
Sur la dernière partie, oui. Avec Rudy Mollard.
Toute l'équipe a énormément travaillé pour Julien. Alors, ça faisait plaisir d'avoir une équipe de France où il n'y avait pas plusieurs leaders. Là, ils avaient dit. Vauclair, il a décidé. C'est celle-là, elle est pour Julien. Je vais prendre que des mecs qui vont bosser comme des malades pour Julien. Et les mecs ont fait le travail et c'est magnifique.
Mais c'est une stratégie, mais... mis bout à bout, c'est magnifique parce qu'ils font ils prennent le contrôle de la course à 40-50 km avec Quentin Paché et d'autres, et on se dit c'est bon, la France va prendre la course en main. Finalement, ils se mettent en retrait et tout pour mieux se cacher, et finalement dans la dernière côte et tout, ils prennent, c'est incroyable.
Oui, ils ont perturbé un petit peu parce qu'à un moment globalement, les autres équipes avaient pensé que tout était pour Julien. Mmh. Ils ont eu un doute avec Quentin Paché, avec Guillaume Martin. Ils se sont dit, est-ce qu'ils ne nous auraient pas berné, les Français ? Et est-ce qu'ils n'ont pas tout misé sur autre chose ? Du coup, ils ont douté et ils n'ont pas attaqué. Quand Julien a attaqué, ils n'ont pas contré. Enfin, ils ont mis, c'est que dalle, ils ont mis 3 secondes, je crois, à contrer. C'était 3 secondes de trop, quoi.
Mais c'est ça, ils ne pouvaient plus. Julien était le plus fort aussi. Hein.
Ben là, voilà.
C'était une côte qui lui a convenu parfaitement.
Mais est-ce que s'il contre vraiment, dès qu'il attaque, il saute dans la roue, est-ce que justement, ils ne peuvent pas aller. Parce qu'après, derrière, c'était pourtant des coureurs qu'on voyait. Hein. Mais cette course sur le circuit d'Imola, magnifique.
Oh, c'était beau. C'était très beau. Et à la fin, une belle victoire pour Julien Alaphilippe. On est très content pour lui.
Belle victoire
pour la France.
Devant qui ? Devant Wout van Aert, Marc Hirschi, qui sont vraiment, je pense, on peut le dire, les coureurs de la saison qu'on a vu sur tous les terrains.
Je pense que là, on peut en ressortir 4-5 cette année entre Roglic, qui on en parlera aussi sur la Vuelta après, Wout van Aert, Pogacar.
Je parlais des plus jeunes. Roglic,
il est un peu plus vieux. Pogacar.
Il sort pas du bois celui-là, mais oui, Pogacar. Voilà, Van Aert, encore une fois, saison énorme.
Non, il y a Hirschi et tout, mais c'est vrai qu'il y a une jeune, la jeunesse là qui arrive au pouvoir.
Gamin, on en a parlé, même s'il n'est pas gamin, mais il a que 24 ans.
Et moi, je vais t'ajouter un autre coureur, il est français pour faire la transition avec le Tour d'Espagne, Gaudu.
On peut parler de nos Français, Guillaume Martin, David Gaudu, qui sont peut-être la relève du cyclisme français, hein, puisque Thibaut Pinot annonce qu'il ne s'aligne pas sur le Tour. Il fera du Giro sa priorité. Le Tour, c'est quelque chose de psychologiquement qui arrive. Il n'y arrive pas.
Il a le niveau, mais il n'y arrive pas. Depuis son podium en 2014 avec le maillot blanc, il n'y arrive plus. Hein. Il est sur le Tour de France, il enchaîne à 50%, il abandonne un Tour de France. Ou soit, le dernier, il l'a pas abandonné, mais il était blessé et tout, il n'a pas réussi à faire grand-chose. Donc, c'est vraiment dommage. Et il a peut-être un... C'est quand ça ne veut pas. Est-ce que cette année sera pour lui ? On espère sur le Giro, hein, parce qu'il aura quand même fort à faire face à des Bernal et tout, surtout. Mais on espère pour lui que cette année, ça va bien se passer aussi sur le Giro, parce qu'il a aussi connu des déboires sur le Giro. Donc...
Après, ça, c'est les Français qu'on connaît depuis longtemps, que ce soit Thibaut Pinot, Romain Bardet. Il y a du changement. Bardet change d'équipe.
Pinot change d'objectif.
Et du coup, quelque part, c'est bien. Et puis, du coup, ça donne de la valeur, justement. Je vais en revenir à David Gaudu, qui a été énorme. Sur toute
un
la...
grand David Gaudu qui a gagné quand même deux étapes sur le Giro et sur le Vuelta.
Les deux grosses étapes de la Vuelta, dirais, c'est les deux
belles étapes de montagne.
Il sera leader du Tour de France en l'absence de Pinot.
Il sera leader de la montagne sur le Tour de France.
Voilà, c'est ce que j'allais dire, leader de la montagne, parce que techniquement, le leader, celui qui est censé être amené à gagner plus de courses, ça sera Arnaud Démare.
C'est ça.
Vu le profil, hein, on se rappelle que maintenant, on se rappelle pas, le parcours du Tour de France qui partira de Brest aura beaucoup plus d'étapes de plat qu'habituellement.
Alors je sais pas s'ils vont mettre aussi Van Avermaet sur le Tour du coup, hein, puisque lui il vient de signer chez AG2R.
Il visera plus les classiques plutôt.
Moi, c'est classique.
Je pense qu'ils n'aligneront pas sur le Tour, il y aura assez d'objectifs avec Démare et
après, c'est pas la même équipe.
C'est pas la même équipe. Van Avermaet a signé chez AG2R.
Ah, pardon.
Oui, c'est pour ça, ça me paraissait bizarre. Oui,
d'accord. Je m'emmène un peu les pinceaux là.
Donc du coup, oui, alors pour la Groupama FDJ, l'équipe de Marc Madiot, le Tour de France, on va viser la montagne, David Gaudu, puisqu'il nous a prouvé avec la Vuelta qu'il pouvait faire de grandes choses quand il n'était pas le capitaine de route, parce qu'avant, il était capitaine de route de Thibaut Pinot.
Exactement,
Pour la montagne, donc là, il a prouvé qu'il pouvait gérer...
Mais après, est-ce qu'avec le fait qu'il soit le leader de la montagne, mais pas le leader du Tour de France, il aura... moins de coéquipiers pour la montagne, est-ce que ça peut l'handicaper ?
Ça peut, mais après, il en a peut-être moins besoin aussi, on l'a vu avec la Vuelta. Parce que la Vuelta, au départ, on n'a pas trop compris, puisqu'il y avait Thibaut Pinot et David Gaudu. On se dit, c'est Gaudu qui va rouler pour Pinot dans la montagne. techniquement, Madiou dit non, non, c'est un peu l'inverse. Il nous embrouille un peu. En fait, il sait que Thibaut Pinot, il est à la ramasse et qu'il sent qu'il va abandonner. Mais c'est son leader, il ne peut, peut pas le sortir du jeu. Et du coup, ils nous ont un peu embrouillé. Et du coup, à la finale, David Gaudu, il a roulé quasiment tout seul. Il y avait qui ? Rudy Mollard, peut-être avec
lui ? Ouais, il y avait Rudy Mollard pour l'aider un petit peu.
Mais c'était un peu tout.
Mais c'est, bah, c'est, exactement. C'est un peu comme Pogacar sur le Tour de France. Il était un peu seul.
Donc, il n'a pas besoin d'autant de monde qu'un Thibaut Pinot.
Exactement. Donc, il peut faire cette année sur le... Sergent qui fait quand même 8e hein, sur la Vuelta.
C'est ce que j'allais dire. Je cherchais son classement sur la Vuelta.
8e et 2 victoires d'étape.
8e et 2 victoires d'étape, ça fait quand même une.
C'est parfait. Hein.
Ah, c'est ce qu'on lui demande. De toute façon, je pense que c'est un peu ce qu'on lui demandait. On savait qu'il était pour aller gagner, c'était compliqué. Hein. Il y avait du très très lourd en face. Donc cette année, sur le Tour de France, il peut viser légitimement, je pense, un top 5. Hein.
Ouais, c'est moi, je pense qu'il peut viser un top 5. Il peut faire des choses. Et puis d'un autre côté, on demandera à Arnaud Démare de ramasser un maximum d'étapes.
Je pense qu'il le fera.
Donc, non, ça va être intéressant.
Parce que, sachant que la FDJ sort sur un Tour de France où ils n'ont pas gagné d'étape, on espère là cette année pour le Tour de France et tout que la FDJ
fasse
quelque chose. C'est important pour eux. Mais puis du deuxième français, c'est Guillaume Martin.
Martin qui fait un beau Tour de France, hein, qui reste longtemps au contact des meilleurs et il craque uniquement dans le Grand Colombier.
Bah, c'est surtout sur la troisième semaine où troisième semaine. Il a moins de jus.
Une équipe, la Cofidis, pas armée pour emmener un leader sur le Tour.
Un peu léger quoi.
C'est un peu léger surtout en montagne. Hormis Errada, Rizou Serrada qui a quelques qualités en montagne, mais sinon après c'est très compliqué pour la Cofidis.
Mais c'est une équipe qui au départ était surtout une équipe de sprinteurs. Hein.
Avec Viviani,
avec Christophe Laporte, et une équipe plutôt dans la conception de la course de Cofidis, plutôt axée sur le sprint. Donc du coup, leur demande de jouer, ils ont voulu jouer un petit peu plus la montagne avec Errada et Martin, mais là peut-être que ça manque un petit peu de moyens. Après, il a fait de belles choses. Il finit 11e, je crois.
Il fait 11e.
De la Vuelta.
Non, du Tour de France, il fait 11e.
Ah non, 11e du Tour de France.
Vuelta,
et la Vuelta.
Il est plus loin. Il est plus loin.
Il est un petit peu plus loin.
Il est 15e.
Il est bien au début, puis après, du coup, il s'écroule un peu. C'est quand même un des coureurs à qui on a demandé beaucoup, la Vuelta, le Tour de France.
Il fait 14e sur la Vuelta.
C'est ça. Donc du coup, quelque part, c'est un petit peu... C'est des belles places hein, quand tu es dans les 20 du...
C'est ça. Et surtout qu'en plus, il a le maillot du meilleur grimpeur sur la Vuelta.
Oui,
donc, ça reste aussi en plus un maillot distinctif. Donc il fait quand même une bonne saison pour lui. Hein. Il a que 26 ans, hein, 27
oui,
ans.
Oui.
Il a encore pas mal d'années devant lui. Hein, donc la Cofidis, qui en plus est une équipe pour le Tour maintenant, faut le rappeler, et peut légitimement viser avec en se renforçant par-ci par-là
des belles choses. Et puis Guillaume Martin il prend aussi de l'expérience hein. Il venait de Corandon Circuit je crois, donc quelque part il n'avait pas une
ou anti-groupe Gobert.
Je me doutais au moment où je disais une bêtise sur l'équipe belge. Là il va pouvoir apprendre tranquillement et puis il va vraiment avoir une équipe faite pour lui.
Bon, donc la saison se termine. En réalité, elle se termine par la saison de cyclo-cross. Et là, on a encore les deux phénomènes, le Belge et l'Hollandais, hein, qui, quand tout le monde
le Hollandais
se
volant.
Repose à la maison, eux, ils sont sur les étapes de Coupe du Monde.
Il y avait 5 étapes. Deux pour Van Aert, deux pour Van Der Poel. Bon, bah voilà, on a senti qu'ils étaient au-dessus. Bon, bah. Ils sont largement.
Mais ils vont continuer à faire ça jusqu'à 30 ans, à rouler sur tous les terrains comme ça.
Oh, ils peuvent. Après, et c'est pas les
ils
seuls.
Ça, hein.
Le truc, c'est qu'en fait, quand tu regardes les courses, en plus, il n'y a pas que. Tu as Thunart, tu as.
Zerbit, Van der Hoogt,
Van Toerenhout, Peacock, l'anglais.
Peacock, maintenant, qui est là
France
aussi.
France bah tiens, c'est bien ça, tu me donnes une transition. Comme ça, ça nous permettra de parler des mouvements. Et David Peacock, effectivement, arrive chez Ineos.
Tom Peacock.
Tom.
David, peut-être bientôt, si c'est son petit frère.
Tom Peacock. Ouais, chez Ineos.
Bah voilà, c'est un Britannique. De toute façon, voilà, c'est... Donc
c'est un peu l'esprit de Ineos.
Peut-être
Ineos,
justement d'aller... pour l'aligner sur l'Estrade Bianche. C'est un profil qui peut lui correspondre. C'est un profil de cyclo-crosseur un petit peu.
Ouais, voilà.
Je pense qu'il manque encore un peu de caisse.
Il va bien falloir qu'on l'aligne sur des courses sur route, hein, maintenant.
Je pense qu'il commencera par équipier. Mais c'est un Britannique, c'est la relève après avec les Garen Thomas, les Froome qui commencent. Froome qui est parti chez Israel Startup Nation. Thomas qui est un peu sur le déclin.
Il fait une bonne opération là-bas parce qu'il ne va pas avoir d'équipier de luxe.
Et Ineos, c'est comme une équipe ancrée autour de Grande-Bretagne quand même. Anciennement Sky, ils avaient besoin d'une nouvelle tête d'affiche britannique. Et c'est
Ils ont Geoghegan Hart qui sort un peu
de nulle part, on va dire ça comme ça, parce qu'on ne voyait pas. Mais là, donc, avec un Pidcock qui est très jeune, ça peut, il va être potentiellement une tête d'affiche chez Ineos. Donc il a bien fait d'aller là-bas et c'est une bonne chose aussi pour Ineos.
Il faudra suivre les résultats. Au rayon des transferts, donc on a dit Froome qui quitte Ineos, Bardet quitte AG2R.
Oui, c'est ce
pour rejoindre Lassonweb.
Lassonweb, du coup, il n'aura pas la même pression.
Il aura moins de pression parce qu'il sera moins regardé que par le passé quand il était dans son équipe française. Mais est-ce que finalement, ce n'est pas une bonne chose de rejoindre une team étrangère coureur français Est-ce que ce n'est pas ce que Pinot aurait dû faire?
Je suis pas sûr,
Pinot, il a besoin d'un truc un peu plus familial, un peu plus.
C'est pas le même personnage. Ouais.
Exactement. Mais là, Bardet, je pense qu'il peut, ça fait du changement. Il en avait besoin, je pense, parce qu'il stagnait chez AG2R. On sentait que voilà, il n'est plus le Bardet qu'on a connu sur le Tour de France. On le sentait moins bien. Il avait besoin d'un changement. Et sachant qu'en plus chez la Sunweb, avec les départs donc de Sam Omen, Kelderman et Michael Matthews, qui étaient quand même les trois grosses un peu tête d'affiche chez Sunweb. Il va partager un peu le leadership avec Jane Lay. Ça va faire. Est-ce qu'il se concentrera sur les classiques ou sur le tour? C'est une bonne question.
Je pense que c'est une gestion relativement différente chez la Sunweb sur les courses, où on tente des coups plus facilement et on est moins soumis aux ordres du capitaine d'équipe et tout le monde roule comme ça. Je trouve qu'ils sont un peu plus libres. Et que ce soit sur les courses, tu les vois souvent, ils ont le droit de tenter de partir, tenter des trucs improbables, comme on a vu faire Hirschi. Et je pense que ça peut lui faire du bien, de ne pas avoir cette pression.
Il n'y a même plus Marc Hirschi qui est parti, donc la UAE Merit aussi. Donc on sent que Bardet, il est vraiment il est au cœur du projet Sunweb, là, d'un coup.
Voilà.
Qu'est-ce qu'on a noté d'autre comme transfert là?
Bob Jungels
et
qui part chez AG2R
avec Van Avermaet.
C'est ce que je voulais dire. On choisit des leaders belges ou luxembourgeois.
Voilà, c'est clairement des coureurs de classiques.
Mais on a à côté des Paré-Peintre, Cosnefroid.
Est-ce que c'est pas aussi des coureurs de classique? Cosnefroid, c'est quand même un coureur de classique.
Ouais, bien sûr. Paré-Peintre, c'est aussi un coureur de classique. Ouais. On le voit sur les classiques de début de saison.
Ben O'Connor, qui est quand même un bon petit grimpeur et tout. Donc, il y a aussi Marc Serrault qui vient de la groupe MSDJ, un sprinter. Donc, AG2R mondial, c'est quand même bien renforcé. Surtout pour les classiques, je pense.
Ils n'auront pas un objectif grand tour cette année.
Alors, objectif d'étape, Marc Serrault, comme avec objectif d'étape de faire des coups, pas de gagner. Là, clairement, ils affichent aucune prétention sur la victoire d'un grand tour.
Là, c'est vraiment, ils vont se concentrer sur les classiques et ils sont bien renforcés pour ça.
Alors, début de saison, ça a commencé il y a 2-3 semaines, la saison cycliste, avec déjà des résultats. Qu'est-ce qu'on a eu? On a couru l'étoile de Bessèges.
Tim Wellens.
Ouais.
Tim Wellens qui remporte l'étoile de Bessèges. Donc, c'est une belle victoire pour le Belge, parce qu'on sait que ça reste un bon coureur. Il a fait 2-3 bons résultats et tout. Il est toujours placé sur la Strade Bianche, on l'avait vu notamment. Donc, c'est une belle, un bon résultat pour lui. Il y a eu quoi
Tour de la Provence, ça vient de s'achever.
Tour de la Provence avec encore un Colombien. C'est Ivan Sosa. Ivan Sosa qui a remporté l'étape Rennes au Chalet Reynard du Mont Ventoux.
Et d'ailleurs, c'était impressionnant. Vous avez dû tous regarder l'étape sous la neige.
Sous la neige, exactement.
Il montait pas heureusement tout en haut parce que là, il fallait des pneus.
C'était la journée où il neigeait partout en France.
Mais c'est ça, parce qu'en plus, ils avaient failli annuler l'étape ou changer l'étape parce qu'en fait, il y avait de la neige. Bon, résultat, ça s'est quand même fait et heureusement.
C'était magnifique.
C'était magnifique. Et une belle victoire pour le Colombien Ivan Sosa de la Ineos. Encore un Ineos, on va dire ça.
Tour du Var et des Alpes-Maritimes. Ça s'est terminé hier.
Avec la victoire
d'un Italien.
D'un Italien, Giacomo Brambilla de la Trek Segafredo. Donc c'est Est-ce qu'on l'attendait plus que ça? Pas forcément, mais ça reste une
belle course où il y avait du beau linge, hein, Quintana...
Michael Woods aussi qui était là.
Ce que j'allais dire, c'est que du coup, à cause du Covid, il y a quand même beaucoup d'épreuves qui ont été annulées de par le monde. Beaucoup de coureurs se reconcentrent sur l'étoile de Bessèges.
On l'a vu. Hein.
Ça redonne une belle notoriété.
Des beaux plateaux.
Ouais, même sur le tour de la Provence. On a vu des beaux noms.
Bon, là, on est en février, en mars, hein, ça va démarrer là, avec déjà le 6 mars, ça sera Strade Bianche. Le 13. Milan San Remo, Tirreno Adriatico dans la foulée, donc il y a une belle course à étapes.
Il y a le Het Nieuwsblad là qui va arriver aussi.
Ouais, déjà.
Le Het Nieuwsblad, c'est le 27.
D'accord.
C'est le 27.
Traditionnellement, on les court pas en avril, c'est classique. Non, pas celle-là.
Celle-là, elle part de très bonne heure.
Het Nieuwsblad, c'est un journal, hein. C'est ça, c'est un journal.
C'est ça, c'est un journal flamand.
Flamand.
Et Paris-Nice, celui qui arrive bientôt. Donc non, il y a,
Ah bah là, c'est le début. Hein. On va avoir les petits tours et puis le début des classiques. Un prono justement pour cette première belle classique hein, qu'on a envie d'appeler le sixième monument, Strade Bianche. Alors, on connaît pas le plateau, hein,
pas le plateau
pour l'instant. Dans huit jours, un Van der Poel pourrait être aligné.
C'est possible, mais...
On ne sait pas trop sur le choix de...
Van Aert, forcément, il va essayer de doubler.
Van der Poel, l'équipe, c'est...
Alpecin-Phoenix.
Alpecin-Phoenix.
Qui n'est pas une équipe pour le tour. Hein.
Non, malheureusement, mais bon, il devrait être là, quand même. Mais... Sur le Strade Bianche, ça va être... vu qu'on n'a pas le plateau, c'est compliqué d'aujourd'hui de donner des noms. Mais ça va être encore une belle course comme chaque année et tout. Et ça renforcera son statut de sixième monument, ça c'est sûr.
Et les classiques flandriennes et ardennaises vont arriver vite puisque ça sera programmé en avril. Donc on les aura en octobre, en avril, 6 mois après, on va se régaler. Hein.
Voilà,
J'espère que les coureurs, eux, se seront bien remis de ce changement de saison très compliqué.
Ah, il reste 5 minutes, même pas. On a des petites questions, on a un petit quiz, on va jouer.
Ouais, voilà, on a mis quelques petites questions sur la saison cycliste. Donc, alors, la première, que s'est-il passé pour Maximilian Schachmann sur le Tour de Lombardie?
Il a chuté.
Oui, mais c'est ça. C'est ça qui a fait polémique un peu.
Je vois l'image. Il s'est pris les roues dans la musette, non?
Non.
Il y a un truc comme ça. Enfin, je sais plus, il fait
une histoire avec une voiture.
Ah, j'ai pas vu la course.
Il fonce dans une voiture.
Il se prend une voiture. C'est une voiture civile en fait. C'était une.
Ah
une
oui, dame. La dame. Oui,
la dame qui était rentrée sur le parcours.
Exact. Le pauvre. Ouais,
ah,
oui,
c'est... Il était bien classé.
Il a fini où? Il a fini dans. Mais il était un peu plus loin. Donc.
On a eu très peur.
Non,
on a eu très peur. Exact. Je revois l'image et
la dame des feuilles mortes qui s'engage cette année pour moi.
Exact.
Deuxième question. Qui a remporté le classement final de la Coupe de France cyclisme 2020.
Alors là...
C'est un sprinter.
Un Français. Arnaud Démare.
Non.
Nasser Bouani,
effectivement.
Si c'est pas l'un, c'est l'autre.
Exact. troisième question qui est un peu en lien avec la Coupe de France. Qui a remporté du coup la première étape de la Coupe de France cyclisme?
Nasser Bouani.
Non,
Arnaud
2021, Demar. C'est de cette année.
Alors,
la surprise générale surtout.
C'était quoi alors du coup? C'est sur l'étoile de Bessèges?
Non, c'était le GP La Marseillaise.
D'accord. Alors, je ne sais pas du tout.
J'ai pas suivi.
Un Delco Marseille alors peut-être?
Non, c'est un AG2R, un jeune grimpeur finalement qui s'est imposé devant deux sprinteurs.
Il n'est pas vu.
Paris-Peintre?
C'est Paris-Peintre, effectivement, qui a la surprise générale. S'était imposé au sprint devant quand même Thomas Bouda et Brian Coquart.
Oui.
Donc c'était une belle surprise pour lui, hein, qui lui-même était surpris.
Attends, oui, je vois la... Oui, ça y est, je revois la course. Oui.
Allez, on enchaîne, il nous reste 2 minutes.
Alors, du coup, ouais, non, ça, je ne vais pas la faire parce que du coup, c'est en lien avec ce qu'on avait dit au tout début. Quelle est la cycliste à avoir réalisé le doublé sur les championnats du monde de cyclisme sur route, course en ligne et contre la montre?
C'est pas l'italienne, c'est des Pays-Bas.
Pays-Bas.
Van Vleuten.
Non, c'est l'autre.
Je sais plus comment. Donne-moi son prénom.
Anna.
Ah non, alors j'ai fait.
Non, c'est non, pas je l'ai pour pas. Moi.
C'était Anna van der Breggen.
Ah, van der Breggen. Oui, exact.
Allez, une pour terminer.
Et une pour terminer. quel est le meilleur quel est le meilleur français sur les championnats du monde de cyclocross cette question en janvier.
Mais écoute, je crois qu'il y en avait qu'un.
Non, il y en avait plusieurs.
Il
a fini 21e ou un truc comme ça.
C'est, il a fini 15e le premier français. Juste devant le deuxième français.
Oui,
16e.
Oui, j'ai plus son nom, mais je l'ai vu en interview.
Je sais que c'est pas notre très connu qui travaille pour Eurosport.
Steve Chanel.
C'est pas Chanel.
C'est pas Chanel.
Comment qu'il s'appelle ? Ah, j'ai plus son nom.
Moi non plus.
Yann Gras devant.
Ah oui, Gras.
Devant Joshua Dubois qui a fini 16e.
D'accord. Ouais.
Voilà.
Ok, et ben on terminera avec ça. On aura appris des choses. Bon, ben on se retrouve la semaine prochaine. On fait un spécial sport d'hiver, bilan. Et championnat du monde.
Non, qui s'est déroulé la semaine dernière.
Et tout ce qui va bien. Et ben on vous retrouve tous les deux la semaine prochaine. Antoine, c'est l'émission est terminée. On se dit à la semaine prochaine. Ciao, ciao.
Salut.
Salut tout le monde.
Money Time. Money Time. Retrouvez l'actualité du sport nantais, français et du reste du monde. Money Time, votre émission sportive tous les lundis de 19h à 20h sur Prune 92 FM et sur prune.net. Go